France Inter, le 18-20.
Plusieurs milliers de personnes dans les rues de Paris le week-end dernier, plusieurs centaines mardi à Rennes pour dire stop à l'homophobie suite à une série d'agressions ces dernières semaines et ces derniers mois. Demain, des rassemblements similaires auront lieu à Montpellier et Strasbourg en attendant Marseille la semaine prochaine. Alors ce soir sur France Inter, on pose la question, comment lutter concrètement contre l'homophobie? Comment condamner ceux qui menacent et agressent? Comment accueillir les victimes dans les commissariats, les gendarmeries? Comment leur rendre justice? Mais surtout, comment éviter de telles dérives? Que ce soit dans l'espace public, le monde du travail ou dans la sphère privée, comment prendre le mal à la racine? On se demandera aussi s'il y a plus d'agressions qu'avant ou si les cas signalés relèvent d'une forme de libération de la parole sur le modèle MeToo. Pour en parler avec nous ce soir, au téléphone sonne Joël Demier, président de SOS Homophobie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Denis Quinqueton, directeur de l'Observatoire LGBT+, de la Fondation Jean Jaurès, c'est bien ça?
C'est bien
bonsoir
ça.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Catherine Michaud, présidente de Gaylib. Bonsoir.
Bonsoir.
Christine Lazerge, la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, est restée avec nous. Bonsoir, rebonsoir Christine Lazerge.
Rebonsoir.
Car la CNCDH s'occupe de toutes les discriminations. On attend bien sûr vos appels à tous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel au standard du téléphone sonne. Je pense que Mélanie est en ligne avec nous. Mélanie, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Bonsoir, il y a pas mal de bruit autour de vous, Mélanie.
Oui.
Dites-nous
je suis désolée,
tout. Dites-nous tout.
Il y a mes jumeaux qui jouent, donc je peux pas les tenir, mais je suis à vous.
Alors, le sujet de ce soir vous a interpellé pour quelle raison, Mélanie?
Alors, en fait, moi, je suis en couple avec une femme depuis 11 ans. Et avant ça, j'étais en couple avec un homme. Donc, vraiment, c'est un sujet qui me touche. Et c'est surtout un sujet qui me touche parce que je pense qu'il continue à être d'actualité aujourd'hui, en fait.
Et pour vous, il y a plus d'homophobie qu'avant ou pas? Je ne vais pas jusqu'à parler des agressions parce que vous ne les évoquez pas, mais quel est le contexte pour vous?
En fait, moi je suis toujours prise entre deux extrêmes. C'est que d'un côté, je trouve que la société évolue beaucoup. On l'a vu avec la loi du mariage pour tous qui a été votée. Et je me dis que c'est un progrès et que finalement on avance et on rattrape, enfin la France en tout cas rattrape petit à petit le retard par rapport à d'autres pays, et puis à la fois j'entends des actes de violence, j'entends des messages de violence, et je constate autour de moi parfois des attitudes qui me permettent de croire que j'ai plutôt pas intérêt à dire que je suis en couple avec une femme, et encore moins que j'ai des enfants avec elle. Mais personnellement, par exemple, moi je n'ai jamais ressenti d'homophobie directe.
En tout cas, vous n'allez pas jusqu'à dire toujours publiquement que vous êtes en couple avec une femme. Vous faites attention d'une certaine façon.
Alors, je le dis à tout le monde, sauf à mon employeur et à mon chef, parce que je sens qu'ils sont pas capables ni d'accueillir ça, ni de le respecter. C'est une différence trop grande, je pense, pour eux.
Et c'est difficile à vivre? Qu'est-ce que vous dites au boulot, par exemple?
Ah ben, alors, j'ai la chance d'être en couple avec une femme qui s'appelle Olivia, que je surnomme Olive. Donc, finalement, en n'utilisant ni le féminin ni le masculin, ça me permet de ne pas mentir. Donc, je dis qu'on a passé un bon week-end et qu'on est ravis.
Merci beaucoup Mélanie pour ce premier témoignage. Une première réaction peut-être, Joël Demier, à ce que vous venez d'entendre,
oui,
ce que nous dit Mélanie ce soir.
Oui, tout à fait. Mélanie, si vous voulez, elle montre bien que l'LGBT-phobie, que l'homophobie, elle persiste dans notre société, qu'elle est ancrée. Et là, on assiste depuis la fin de l'été à une vague de violences homophobes de plus en plus visible. Ça ne veut pas forcément dire que l'homophobie a augmenté. Ça veut dire surtout que les victimes ne supportent plus de se taire. Et aujourd'hui, elles brisent le silence, en fait. Elles osent parler, elles osent dire haut et fort qu'elles sont, victimes de violences homophobes.
Denis Quinqueton, sur cette question des agressions et de l'homophobie, est-ce qu'il y a une hausse des agressions ou est-ce que, comme le dit Joël Demier, peut-être qu'on entend plus ce qui se passe?
Alors, probablement, on entend plus ce qui se passe. Ça paraît sûr. D'autres part, c'est très très difficile à compter pour une raison toute simple. Enfin, vous avez cité MeToo tout à l'heure et c'est, je pense que la comparaison est intéressante. On a un système en France qui comptabilise les plaintes. C'est très facile pour comptabiliser les atteintes aux biens parce que ça engage un peu moins humainement et affectivement. Quand il s'agit d'une agression contre sa personne, il faut déjà faire le chemin de se reconnaître comme une victime, ce qui n'est pas toujours évident. Ensuite, aller porter plainte, ce qui n'est encore pas évident.
Et ensuite mettre
des mots. Ce qui s'est passé. Bref, tout ça pour dire que on est face à un phénomène qui est très difficile à quantifier. Moi, ce qui m'avait frappé, pour peut-être revenir aussi sur ce qu'évoquait Mélanie, ce qui m'avait frappé dans l'enquête qu'a commandé l'Observatoire de la Fondation Jean Jaurès et la DILCRA et qu'on a publié en juin, c'est la proportion de lesbiennes et de gays qui ont des stratégies d'évitement. Un peu ce qu'a raconté Mélanie,
par rapport à son employeur.
Voilà, c'est 3 sur 4. Donc 3 personnes sur 4 ont des stratégies d'évitement et on les comprend, pour ne pas avoir à faire face à la violence. Et ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent parce que c'est pas la peine de se mettre en danger. Mais par contre, ça pose quand même un problème et ça dit sans doute que la société n'est pas si avancée qu'on l'imagine.
Et j'ajoute que d'après cette enquête dont vous parlez, oui, commandée à l'IFOP en juin dernier, 53% des personnes disaient avoir subi une agression au moins une fois.
Et 60% si on se recentre sur la population uniquement lesbienne et gay.
Catherine Michaud, présidente de Gaylib, vous souhaitiez peut-être réagir aussi par rapport à ce que disait Mélanie tout à l'heure.
Oui, Mélanie souligne plusieurs points dans cette homophobie, qu'on pourrait même pousser quelque part des difficultés sur la lesbophobie. Et je vais aussi peut-être témoigner en tant que femme. C'est souvent la double peine, la double discrimination. C'est-à-dire que la lesbophobie également,
elle s'ajoute au sexisme, c'est ça que vous voulez dire.
Au sexisme, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'esprit, souvent, un peu communément, ça va être cette femme qui est lesbienne, c'est qu'en fait elle n'a pas rencontré le bon mari. Et puis ça va aller aussi avec des situations du quotidien, sur la remarque qui fait l'homme, qui fait la femme à la maison, la femme lesbienne aurait, ou ça ne se voit pas, parce que bien sûr la femme lesbienne a forcément le crâne rasé, des tatouages partout, et puis un piercing à l'arcade, vous le voyez sur moi d'ailleurs.
Oui, effectivement, c'est tout à fait votre portrait robot. Je précise que vous êtes blonde aux cheveux longs, oui, voilà.
Voilà, donc c'est empreint de clichés et de stéréotypes derrière, terriblement, terriblement sexistes.
Christine Lazerge, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, tout ce que vous venez d'entendre, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu dans le cadre des travaux réalisés par la CNCDH.
Bien évidemment. Et la CNCDH, dans sa mission principale de vigilance, est très investie sur les discriminations commises à l'encontre des personnes soit lesbiennes, soit homosexuelles de façon générale, ou intergenres même. Et nous avons rendu un avis le 25 juin 2014 sur ces discriminations qui sont extrêmement nombreuses. Et nous sommes félicités de ce que un plan, une politique publique soit mise en place.
Par la DILCRA, la délégation interministérielle, chargée du sujet.
Chargée du sujet, et j'ai là sous les yeux la première évaluation du plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT. La CNCDH, par une lettre du Premier ministre, est chargée depuis le 3 avril dernier d'évaluer la réalisation, la mise en œuvre de ce plan. Et nous assurons donc un suivi régulier. Il y a comme membre de la CNCDH des personnes très très vigilantes, le collectif LGBT qui est là et qui est très présent, et ce que je trouve formidable aussi, sur toutes sortes d'autres questions. Alors, les questions de haine LGBT.
On reviendra évidemment sur le plan de la DILCRA, mais j'aimerais savoir, Joël Demier, par rapport à ces agressions qui ont eu lieu au cours des dernières semaines, des derniers mois, sur la réaction des pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette réaction ? Suffisante ou pas suffisante ? J'imagine que si vous avez appelé des rassemblements, c'est que ça vous ne paraissait pas à la hauteur de la situation ?
Si vous voulez, les pouvoirs publics depuis disons les années 80 sont des alliés de la communauté LGBT. Avant, ils persécutaient les LGBT, l'homosexualité était pénalisée. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et on peut même dire que les pouvoirs publics sont des alliés de la communauté LGBT. Pour autant, face à la succession d'agressions homophobes que nous connaissons en France depuis qui a toujours été là mais dont la visibilité a augmenté depuis quelques semaines, c'est une agression physique homophobe tous les 3 jours en 2017. Une agression physique homophobe tous les 3 jours. C'est-à-dire qu'une personne homosexuelle se fait casser la figure tous les 3 jours en France. En raison de son orientation sexuelle. Donc quand on a des agressions homophobes qui sont commises dans le pays et que les pouvoirs publics se taisent ou ne réagissent pas, ne condamnent pas systématiquement ces agressions, quelque part ils se rendent complices de ces agressions. Ils légitiment ces agressions parce que cette forme d'indifférence vis-à-vis des agressions et cette non-condamnation systématique, elle est problématique. Et donc nous avons tiré la sonnette d'alarme et nous disons les pouvoirs publics doivent être beaucoup plus doivent condamner beaucoup plus systématiquement les agressions LGBT-phobes et doivent aussi revoir leur politique publique, c'est-à-dire que comme on le disait, la DILCRA qui a été créée en 2016 dans sa composante lutte contre la haine anti-LGBT fait un travail considérable aujourd'hui pour prévenir les LGBT-phobies, mais pour autant c'est insuffisant parce que c'est insuffisant à endiguer toute la vague de violence qu'on connaît. Donc les pouvoirs publics doivent aller beaucoup plus loin et doivent surtout, une chose, prévoir des mesures concrètes pour vraiment endiguer cette vague de haine, cesser de faire des annonces, cesser de faire des promesses et passer à l'acte.
Catherine Michaud, je vous voyais réagir.
Oui, je crois qu'il faut une parole publique forte. Moi, j'appelle le président de la République et le Premier ministre à prendre enfin la parole. Leur silence est assourdissant. Nous avons été reçus, nous, association LGBT, par Marlène Schiappa, il y a à peu près une semaine. Très bien, mais jamais on n'a entendu le président de la République ou le chef du gouvernement réagir sur ces sujets. C'est insupportable. Je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qui se passe. Il y a quelques semaines, quelques mois, à Paris, une femme trans a été assassinée. Assassinée.
Vous parlez du Bois de Boulogne.
Tout à fait, Vanessa Campos.
Vanessa Campos, oui.
Combien d'assassinats, combien d'agressions faudra-t-il pour que le président de la République et le chef du gouvernement sortent de leur silence?
Denis Quinton, sur cette responsabilité des pouvoirs publics,
La responsabilité des pouvoirs publics, elle est plurielle. Bon, il y a une tradition en France, peut-être dans d'autres pays d'ailleurs, qui doit être héritée des rois thaumaturges. Enfin, tout d'un coup, la parole du dirigeant est importante parce qu'elle soigne. Bon, très bien. Et effectivement, il faut, on en a besoin, donc il faut l'utiliser. Moi-même, à l'époque, je n'étais pas à la Fondation Jean Jaurès. J'étais président de la HES pendant le quinquennat de François Hollande. J'ai trouvé qu'effectivement, il s'investissait singulièrement peu dans une réforme qu'il a pourtant voulu sans aucune espèce d'ambiguïté.
Et, vous avez trouvé que François Hollande s'était peu investi dans cette réforme?
Il a rien dit, hein, à part pendant le débat parlementaire, à part son discours au Congrès des maires, qui a laissé un souvenir impérissable, il n'a absolument rien dit.
Constitutionnellement, il peut dire dans toutes sortes d'instances, mais pendant le débat parlementaire, c'est au Parlement.
Oui, mais dans des situations un peu tendues, il y a des manières d'intervenir dans le cadre d'une conférence de presse. D'autres présidents l'ont fait, quoi. Enfin, pour citer un exemple.
En tout cas, Christiane Taubira, elle a mouillé la chemise. On est d'accord.
Clairement. Bref, mais pour revenir à ça, il y a cette dimension de la parole, bien sûr, mais après il y a les actes publics. Et la lutte contre la LGBT-phobie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation, d'éveil de l'esprit, d'ouverture, parce que c'est tellement absurde comme haine. Toutes les haines, souvent, sont absurdes, d'ailleurs. Mais voilà, donc on sait bien que le remède, il passe par l'éducation. Et puis, il passe aussi par une capacité des pouvoirs publics à faire leur travail, en l'espèce la police, et de pouvoir recueillir les plaintes convenablement, ce qui n'est pas le cas non plus. Oui. On a eu trop de retours ces derniers temps où les gens étaient mal accueillis dans les commissariats. Alors, ça ne veut pas dire que tous les policiers sont bons à jeter, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais il y a un problème d'accueil et il y a un problème qui peut s'expliquer, je ne sais pas comment, et il y a aussi un problème pour la caractérisation des faits. C'est-à-dire qu'on dit souvent aux gens, prouvez-le que c'est homophobe, c'est facile, hein. Ne retenez pas la caractéristique homophobe. Donc, on attend ça aussi des pouvoirs publics.
On va y revenir, mais je voudrais qu'on fasse un petit détour par le standard de France Inter, puisque cette émission s'appelle Le téléphone sonne, et que Thierry est au bout du fil. Bonsoir Thierry, bienvenue.
Bonsoir. Je suis un peu ému. Hein.
On va vous aider.
Ouais.
Dites-nous tout Thierry.
Je suis éducateur spécialisé, je travaille avec des enfants sourds, autistes, troubles du langage. L'année dernière, ça fait un an pile. Plein de collègues ne me parlaient plus, me disaient à peine bonjour et tout ça. Et un jour, un collègue me dit, mais attends, il y a machin qui est en train de dire partout que tu es pédophile. Donc, moi, je vais directement en parler à mes collègues, on va voir la direction en disant c'est pas possible et tout ça, et donc voilà, la direction devait faire quelque chose. Et depuis, donc là, ça fait un an, rien. Rien du tout.
Et pour quoi, quelle raison est-ce qu'on aurait pensé que vous étiez pédophile?
Juste parce que effectivement, je suis homosexuel.
Et vous pensez que les gens faisaient comme ça, cas, l'amalgame?
En tout cas, lui voulait le faire. Je travaille en plus avec des enfants. Je crois qu'il voulait m'atteindre, effectivement. Et puis, la meilleure façon de m'atteindre, c'est effectivement dire que je suis un criminel.
C'est pas facile?
C'est dur. C'est très dur. Parce que on m'a dit, bon, mais on pouvait me payer même, je sais pas, il fallait que je parte plainte. Je suis trop fragile pour le faire. L'établissement public dans lequel je travaille a dit, mais on va porter plainte. Nous, ça s'est passé dans le cadre du travail, on va porter plainte. Et puis, j'ai redemandé au mois de juillet s'il y avait quelque chose et tout ça. Ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Et vous vivez avec cette suspicion uniquement parce
non.
que...
Non, parce que mes autres collègues n'en pensent pas du tout que je sois un pédophile. Au bout d'un moment, il a fallu que ça se sache, il a fallu le dire et tout ça. Donc ça, c'était des épreuves très, très dures, quoi. Après, tout le monde m'a dit, ben non, si tu veux... Si on a un problème pour garder nos gamins, on prendra toi, il n'y a pas de problème et tout, voilà. Mais pas soutenu, rien du tout. Après, voilà, la personne qui a dit ça est peinard.
Merci Thierry pour cet appel qui fait réagir ici dans le studio de France Inter, Denis Quinton.
Oui, alors c'est vrai que ça reste une des formes assez sournoises d'homophobie, enfin de LGBT-phobie. Que ce type d'accusation qui est infamante, enfin, quand on porte une accusation pareille envers quelqu'un, visiblement sans preuve,
c'est gravissime.
C'est gravissime. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'entends depuis longtemps, enfin, parce qu'il se trouve que je commence à être un peu amorti, donc ça fait longtemps que...
Amorti, amorti, vous avez l'air d'un jeune homme. N'exagérez pas.
C'est un parallèle qu'on entend depuis un moment. Donc c'est ce que raconte Thierry, c'est aussi que il y a pas seulement les agressions sur la voie publique qui sont visibles, qu'on montre. Il y a aussi des choses beaucoup plus sordides qui se jouent, notamment sur le lieu de travail ou qui se jouent sur le lieu d'habitation. Et ça, c'est des mises en insécurité profonde. Enfin, vous imaginez ne pas pouvoir venir travailler un tout petit peu sereinement, même si vous avez un chef qui vous embête, même si vous avez des contraintes, etc. Mais venir travailler dans les conditions qu'il décrit, c'est épouvantable.
C'est particulièrement difficile, Christine Lazerge.
Oui, et c'est particulièrement difficile, on ne le dit pas suffisamment en zone rurale. Enfin, on parle beaucoup, et heureusement, des agressions à Paris. Mais franchement, pour les adolescents, et c'est d'ailleurs monté des associations comme le Refuge, il y a un certain nombre de jeunes qui sont carrément rejetés de leur famille quand leur homosexualité est connue de l'un des deux parents ou des deux parents. Et ces situations-là, je trouve qu'on en parle très peu. Et puis, je voudrais revenir un instant sur les chiffres. Vous dites une agression tous les trois jours. C'est certainement infiniment plus. Mmh. Parce que c'est une agression constatée et avec procès verbal. C'est vrai pour quantité d'infractions. Mais en ce domaine, on n'a que la partie émergée de l'iceberg.
Joël Demier.
Oui, moi, je voudrais juste saluer le courage de Thierry d'avoir témoigné ce soir et de nous avoir fait part d'un cas, hélas, assez généralisé d'homophobie au travail, qui se manifeste par la rumeur, en fait. C'est-à-dire qu'on lance des rumeurs sur vous, on utilise votre orientation sexuelle, votre homosexualité, pour l'instrumentaliser contre vous, vous menacer, et vous décrédibiliser, finalement. Ça, c'est un cas d'homophobie sur les lieux de travail qui est assez courant, en fait. Et nous, j'invite vraiment Thierry à continuer.
À appeler une association, peut-être, à ne
pas rester seul, à en parler comme il l'a fait ce soir, et à vraiment continuer à être aussi courageux. Il faut vraiment pas qu'il reste seul, il faut qu'il se fasse aider seul. Alors, par la police, par une association aussi.
Je pense que Thierry vous aura entendu et qui trouvera votre numéro. Jacques est en ligne à son tour. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
On vous écoute, bienvenue à vous.
Bonsoir, merci. Je vais essayer de faire bref. Je voulais juste apporter tout mon soutien à la communauté LGBT. Les agressions et toutes sortes d'atteintes à ces personnes pour leur orientation sexuelle, je condamne ça de la plus ferme des manières. Et je voulais juste manifester de mon incompréhension. Quand je discute avec des gens de ma génération, moi j'ai 37 ans, donc des cousins, des amis qui ont des enfants comme moi, et je me trouve plus que je ne le pensais confronté à des manières de penser assez réfractaires sur l'homophobie, surtout quand on parle de l'éventualité que nos enfants un jour soient homosexuels. Moi, c'est quelque chose qui me choque pas. Et bon, j'espère que ça va aller dans le bon sens pour la génération de nos enfants qui, eux, sont nés avec le mariage pour tous. Et voilà, c'était mon message de ce soir.
Merci beaucoup, Jacques, pour ce témoignage. Qui veut réagir peut-être Catherine Michaud, ça vous fait chaud au cœur, vous l'entendez, Jacques?
Oui, un peu de soutien, ça nous change, hein, par les temps qui courent. Remercier notre auditeur. Il souligne des points importants, et je pense que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est effectivement aussi pour que les générations qui grandissent, les générations des jeunes d'aujourd'hui, demain évoluent dans une société, j'allais dire fraternelle et humaniste, où il y aura peut-être davantage de respect de la différence de l'autre. Denis le soulignait tout à l'heure, je crois que beaucoup de choses passent par l'éducation, et dans ce qu'on attend aujourd'hui des mesures du gouvernement, ça passe par un grand plan aussi de prévention qui va du ministère de l'éducation, aussi par l'intérieur, par la justice, par la défense, pour former à la fois nos professeurs, pour prévoir aussi donc des modules de lutte contre les discriminations dans les écoles, les collèges, les lycées, mais ça passe aussi par la formation des gendarmes, des policiers, pour savoir accueillir les victimes, la formation des magistrats. Donc voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut de la prévention, il faut aussi de la répression, parce qu'à un moment donné, il faut des peines exemplaires. On peut plus tolérer que un agresseur prenne quelques mois avec sursis. C'est plus entendable. Donc aujourd'hui, la République, elle doit pouvoir protéger tous ses concitoyens, quelle que soit leur minorité. Voilà, nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Nous devons être protégés comme tout le monde.
Alors vous parlez de la formation des policiers ou des gendarmes. Ouais, il se trouve que nous sommes en ligne avec Michael Bûcheron de l'association FLAG, qui est une association de policiers et de gendarmes. C'est bien ça, Michael Bûcheron, je ne me trompe pas?
C'est bien ça.
Et vous occupez de la formation des policiers et des gendarmes, c'est ça?
Oui, on intervient maintenant depuis 4-5 ans dans les écoles de gendarmerie et de police, auprès de tous les corps, de tous les grades de la police et de la gendarmerie, pour justement les sensibiliser, les former, c'est un peu un gros, mais au moins les sensibiliser, les alerter sur le vocabulaire ambiant, sur l'accueil des victimes LGBT, sur le recueil des plaintes, sur le traitement des plaintes. Il y a un vaste sujet, et surtout, ça permet de combattre aussi les préjugés. C'était l'un des enjeux principaux au départ. Combattre les préjugés, combattre le vocabulaire ambiant. À l'image de ce qui se fait dans la société française, il y a tout un vocabulaire qui est clairement juridiquement homophobe, mais qui n'est pas perçu comme tel. Et comment accueillir une victime d'homophobie, comment prendre en compte le caractère homophobe d'une victime si nous-mêmes, nous policiers, on peut parfois employer le même vocabulaire dans le langage, dans le courant, dans le quotidien.
Michael Bûcheron, est-ce que vous avez vu des collègues évoluer par rapport à ce genre de formation?
Oui, alors déjà on a des remerciements qu'on reçoit parfois par mail ou par sur Facebook de collègues qui étaient dans la salle lorsqu'on intervient, donc ça oui. On a vu des responsables de police également nous voir pour nous dire que tout l'intérêt de notre intervention et qu'ils en avaient apprécié à la fois le contenu et l'ouverture d'esprit que nous essayons de faire au sein de l'institution police gendarmerie. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit quand même énormément évoluer, et je vois aussi les populations évoluer. Il y a 10 ans, on n'aurait pas le discours qu'on a aujourd'hui dans les écoles. Moi, j'étais hier à l'école de Nîmes. On a globalement un discours plutôt d'ouverture et plutôt de chercher à comprendre, finalement. Je vois sur les sujets des personnes trans, par exemple. Quand on parle de ce sujet-là, on se rend compte que, d'une part, les policiers sont aujourd'hui ne savent pas du tout comment réagir, ne savent pas comment se comporter, et on leur apporte des réponses. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tout le monde s'en foutait complètement. Donc il y a une vraie évolution de prise en compte, elle n'est pas encore parfaite, il faut continuer à travailler là-dessus, il faut encore continuer à les former, à sensibiliser au long cours, parce qu'il y a la formation initiale en école de police, mais il y a tous les collègues qui sont déjà en service, et eux, il faut évidemment aussi les former pour que tout l'ensemble de la chaîne police-justice soit mieux à même de publier et de traiter les victimes LGBT.
Merci beaucoup, Michael Bûcheron, pour ce témoignage. Denis Quinton, quand vous disiez tout à l'heure, vous nous faisiez comprendre que vous aviez déjà un certain parcours derrière vous, une certaine expérience de la vie, on va dire ça comme ça. Est-ce que très sincèrement, au niveau de la parole publique, est-ce que vous avez vu une évolution, vous, sur les 20 ou 30 dernières années? Est-ce que les choses ont changé? Ou est-ce qu'il y a eu, au contraire, une libération moment de la parole homophobe? Moi, je pense, par exemple, aux propos actuellement de celui qui est candidat au Brésil. Alors, on sort de la France, mais candidat de l'extrême droite, c'est quand même assez incroyable de les propos que peut tenir un homme public comme lui. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer?
Je pense qu'il y a eu deux mouvements parallèles, mais divergents. Il y a eu plusieurs mouvements parallèles divergents. C'est-à-dire, d'abord, c'est rentré dans le champ du politique. Donc, parce que moi, j'ai connu l'époque où quand on allait voir les parlementaires pour leur parler de ce qui allait devenir le PAX, quand on faisait du lobbying pour ce qu'allait devenir le PAX, les mecs, ils fermaient la porte de leur bureau au cas où on puisse croire qu'ils soient homosexuels. On sait jamais. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai connu cette époque-là. Donc, effectivement, maintenant, on n'en est clairement plus là, et c'est une bonne chose. Après, il y a eu aussi un mouvement un peu d'apaisement de la société qui, dans sa grande majorité, enfin, il y a l'IFOP qui fait un sondage le même depuis, qui a fait le même pendant 40 ou 50 ans. Je sais plus, la même question, c'est est-ce que vous jugez que l'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité? Et quand ils ont commencé dans les années 70, la réponse était 20 oui, 80 non. Et quand ils ont arrêté, 2014-2015, par là, la réponse était inversée. C'est-à-dire que c'est 88, 20 non. Donc c'est aussi une dimension qu'il faut prendre en compte et qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les gens qui nous écoutent s'imaginent que tout d'un coup, on se retrouve dans un pays à feu et à sang sur la question des LGBT-phobies. Il y a des vrais sujets, mais la société dans son ensemble a évolué. Après, il y a aussi une libération de la parole. Mais ça, c'est une libération de la parole trash, qui est assez général, enfin qu'on peut constater sur la question du racisme. Je pense que Mme Lazarek pourra en dire sur tout un tas de plans. Oui. Tout d'un coup, pour se signaler, pour se faire remarquer, plus la parole est trash et donc plus la parole est violente, mieux ça marche. Et ça, c'est une difficulté parce que ça se reproduit dans la société aussi.
Et puis, il y a des thèmes peut-être d'actualité qui ont tendance à libérer cette parole-là. On en vient au débat là sur la PMA. C'est un sujet d'actualité puisque la loi va peut-être évoluer. Il y a des recommandations du comité d'éthique. Vous-même, à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, vous apprêtez à rendre un avis. Donc, effectivement, c'est dans le débat public.
Sur PMA et accès aux origines.
C'est dans le débat public et certains...
C'est dans le débat public et je pense que sur l'homophobie, ce qui joue aussi, c'est ce qui n'est pas vraiment dans le débat public, mais y est presque, c'est la question de la GPA. Et on mélange un peu tout. Et donc, ça relance un petit peu avec la manif pour tous qui est de nouveau assez présente. Ça joue pour renforcer une homophobie qui était... en phase descendante, si je puis dire.
Joël Denis.
Si vous voulez, à toutes les périodes de l'histoire, quand on a fait des grandes réformes de société, comme par exemple le PACS ou alors le mariage pour tous et aujourd'hui la PMA, à chaque fois on constate une augmentation des signalements d'actes homophobes auprès de SOS Homophobie. En 2012-2013, on a constaté une augmentation de 78% des actes homophobes signalés à notre association, en raison justement de cette parole publique qui devient homophobe au moment des débats. Et aujourd'hui, il y a un vrai risque de revivre ce qu'on a vécu en 2012-2013, à savoir une flambée de haine dans la parole publique, et ça a déjà un petit peu commencé.
Voudrait dire quoi, ne pas parler du sujet
Non,
c'est
non,
quand
non.
même difficile. Hein.
Si vous voulez,
on
peut très bien débattre de la PMA, mais seulement ce débat ne doit pas être l'occasion pour les opposants à la PMA de stigmatiser les familles homoparentales, de stigmatiser les personnes homosexuelles. Or, c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des amalgames qui sont faits, il y a des propos stigmatisants, on compare les enfants des familles homoparentales et des OGM. Pensons aux adolescents de ces familles, aux enfants de ces familles qui écoutent la radio, qui regardent la télévision. Il faut que le débat soit respectueux, apaisé et le plus rapide possible pour que, justement, on évite cette flambée de haine homophobe.
Catherine Michaud, puis après on repartira au standard.
Il y a effectivement une libération de la parole haineuse, de manière... générale, une forme de tension, et qui finalement d'ailleurs autorise certains à passer à l'acte et aller casser du PD, si vous m'autorisez à être un peu familière. Et puis on parlait de la Manif pour tous, mais effectivement, toutes ces officines, Alliance Vita, Civitas, Manif pour tous, Sens commun, qui font toutes les matinales et tous les plateaux télé pour aller déverser leur vomi haineux, pour aller juger nos familles, pour aller juger nos enfants, pour aller opposer les Français les uns aux autres, les stigmatiser. Tu parlais tout à l'heure, Joël, d'enfants OGM. Mais au-delà des stigmatisations, il y a quoi derrière, finalement? Dans une république laïque, finalement, nous avons des officines très souvent derrière, cachées derrière des dogmes, derrière des religions qui cherchent à nous faire infuser leur vision de la société. Et ça, c'est juste absolument inadmissible. Ils cherchent à faire pression sur le législateur. Le législateur, il ne doit pas... Et là, ça va être l'élu de Paris qui va vous parler.
Je précise que vous êtes élu conseillère dans le 2e arrondissement de Paris. UDI Modem, pour être précis.
Le législateur, le politique, il n'est pas là pour juger la société. Il doit l'accompagner avec ses évolutions.
On repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Laetitia qui est au bout du fil. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir à tout le monde.
On vous écoute.
Alors moi, en fait, je voulais parler à tous les parents qui nous écoutent actuellement, tous les futurs parents. Voilà, c'est à nous d'éduquer nos enfants de telle façon que même si moi j'ai deux garçons, et ben si mes deux garçons ils viennent me voir un jour et ils me disent « bah maman, j'aime un garçon », et ben je dis « bah écoute, super, mais du moment que tu sois heureux, c'est principal ». Voilà, la petite fille, elle doit jouer à la poupée. Le petit garçon, il doit jouer à la voiture. Et tout. Et moi, j'ai joué à la petite fille. Quand j'étais petite fille, je jouais à la poupée et à la voiture. Et je suis une maman.
Qui sait réparer les voitures.
Voilà, exactement.
Ça, c'est super. Bravo. Merci.
Une maman ouverte sur le monde. Et aussi, je voulais dire par rapport au témoignage que Marc-Olivier Fogiel a fait dans l'émission Grand Bien vous fasse. Voilà. Moi, je pense que les parents homoparentales ou tout autre système, on va dire, qui n'est pas classique, ces enfants sont tellement désirés qu'en fait, ils sont encore mieux, ils ont la tête sur les épaules, beaucoup plus que des parents qui, on va dire, je trouve, classiques et qui, au contraire, éduquent leurs enfants trop dans la stigmatisation.
Merci voilà. Laetitia pour ce témoignage qui nous explique aussi que faut prendre le mal à la racine. Oui. Catherine Michaud, que vous en pensez?
Oui,
c'est difficile, les parents
ont aussi leur responsabilité tout à fait dans l'éducation et dans les valeurs qu'ils inculquent à leurs enfants. Laetitia a raison sur un deuxième point qui est que la barrière, on va dire, biologique pour nous, pour fonder une famille, fait que nos enfants le projet de fonder une famille est un projet empreint de réflexion. Nos enfants, ils sont voulus, ils sont heureux, épanouis, tout va bien. Enfin, dernière nouvelle, il n'y a jamais eu de scandale, pas eu de bébé congelé comme il y a pu y avoir ailleurs.
C'est vrai.
Joël Demier.
Oui, non, tout simplement dire que être un bon parent, en fait, c'est totalement indépendant de l'orientation sexuelle des personnes ou du genre des personnes. Donc, on peut très bien avoir une famille avec deux mamans, deux papas, un papa ou une maman et des enfants. Qu'est-ce qui importe dans une famille, c'est de transmettre une discipline, une éducation, de l'amour, des repères. Et ça, tout le monde peut le faire indépendamment de son orientation sexuelle et de son identité de genre.
On est bien d'accord.
Ça me paraît capital.
On va prendre Stéphanie, très rapidement Stéphanie, parce qu'il est déjà 19h55. Si vous pouviez nous poser une petite question rapide ou un message assez court. Bonsoir Stéphanie.
Voilà. Bonsoir, un tout petit message court dans ce cas-là, juste pour vous dire le retour du terrain auprès des adolescents. Moi je suis responsable d'une maison des ados, je travaillais encore hier avec l'association LGBT de ma commune qui est très active depuis plus de 20 ans, et quand on en discutait, globalement, bien que... En effet, il y a davantage de médiatisation et davantage de plaintes, et je pense que c'est une très bonne chose, donc ça se fait plus, mais la société évolue bien. Et là, nos ados, ce qu'on en voit, c'est qu'ils osent dire de plus en plus et de plus en plus tôt leur orientation sexuelle, ils l'assument mieux, et ils sont moins les souffre-douleurs, ils sont moins en souffrance par rapport à ça que ce qu'ils étaient avant. Il n'y a pas plus d'homophobie, en tout cas chez les jeunes et dans la société que nous on rencontre sur le terrain dans une ville moyenne, voilà, de 150 000 habitants, qu'auparavant. Au contraire, en fait, on trouve que la société évolue bien. Donc voilà, petit message positif si c'était possible.
Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, Stéphanie. Merci pour ce message. Denis Quinton, vous voyez, Ça évolue bien?
Bah oui, 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 ça évolue. Mais c'est de toute façon une société de 60, presque 70 millions de personnes, c'est forcément un peu compliqué, quoi.
Quelques petites questions avec des réponses très courtes. On a bien entendu les revendications des associations depuis le début de cette émission. Moi, j'ai une question. Est-ce que l'arsenal législatif est suffisant? C'est pas un problème de loi? Les lois sont là, faut bosser sur le reste?
Oui, alors j'ai tendance à dire que l'arsenal législatif sur quantité de sujets est largement suffisant. Oui, surtout, n'empilons pas de nouveaux textes. Mais vous avez tous
dit, la priorité.
Je partage, cette priorité, c'est l'éducation. Oui. C'est vraiment la priorité des priorités.
Joël Demier.
Oui, la priorité, c'est la prévention de l'homophobie à l'école, dans le milieu du travail aussi, un meilleur accueil des plaintes, donc une meilleure formation de la police, des gendarmes, des professeurs dans les écoles aussi, pour qu'ils puissent mieux identifier les cas d'homophobie, pour mieux les traiter, qu'ils n'aient plus honte aussi les professeurs de parler d'homophobie dans les classes. Quand même, la lutte contre l'homophobie, contre l'LGBTphobie, c'est dans les programmes scolaires, c'est transversal depuis quelques années. Donc il faut que tous les profs, hein, collège, lycée, primaire, parlent de ces sujets-là, n'aient pas honte d'en parler, parce que c'est ça aussi qui va faire reculer l'homophobie dans les mentalités.
Catherine Michaud.
L'homophobie n'est pas une opinion, mais un délit. Elle est déjà punie par la loi. Il y a déjà ce qu'il faut de prévu. Je crains que malheureusement, nous ne pourrons jamais légiférer contre la bêtise humaine.
Denis Quinquetan, le mot de la fin
pense que
pour
ça,
vous aussi.
Ça passe par de l'éducation, de la connaissance. Moi, il y a SOS Homophobie, je parle pas pour ma chapelle du coup, qui a sorti un film, un petit film très 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 bien fait, qui dit voilà qu'est-ce que c'est un bon parent, et vraiment je recommande aux auditeurs d'aller le voir. Je leur recommande aussi, s'ils se posent des questions sur les familles homoparentales, d'aller voir le compte Twitter chez Papa Papou, comme ça se prononce.
On ira voir.
Il y a plein de témoignages.
On ira voir. Christine Lazerge, le mot de
la
fin.
C'est la réalité.
Il est pour vous une petite question peut-être, puisqu'on a parlé ensemble depuis 18 heures de tout le travail de la CNCDH. Est-ce que la lutte contre l'homophobie, c'est une cause commune avec la lutte comme toutes les autres discriminations?
Mais oui, absolument.
Même combat contre le racisme,
mais
le sexisme.
Et c'est une lutte contre des préjugés, encore une fois, contre une absence de culture, contre un manque d'éducation, contre un manque de respect d'autrui.
Merci mille fois Christine Lazerge, merci à vous tous pour cette émission
merci
ce soir, merci à ceux qui nous ont appelés, à ceux qui nous ont envoyé des mails aussi sur franceinter.fr avec des témoignages émouvants, j'ai pas pu malheureusement tous les donner à l'antenne, merci à ceux qui m'ont aidé à préparer et à réaliser cette émission, Claire Destacan, Jimmy Bourquin, Thomas Lehété, à la technique Arnaud Caillé, Ludovic Asselot, Alexandre Chenet, merci aussi aux standardistes de l'émission.